écoutez bien Radio France Internationale. Il est midi et demi en temps universel, 13h30 à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. Des propos très virulents du Premier ministre Ousmane Sonko qui sème le trouble à 5 jours des législatives au Sénégal. Sur les réseaux sociaux, il appelle ses militants à se venger après des agressions dont ses supporters ont été, selon lui, victimes. Au Burkina Faso, le gouverneur de la région de l'Est décide de la levée du couvre-feu. Voilà 5 ans qu'il était en vigueur. La levée totale de l'embargo sur les diamants centrafricains, ce sera l'un des sujets discutés à l'Assemblée plénière du processus de Kimberley qui commence à Dubaï. Le gouvernement de Bangui demande la fin des restrictions. Et puis les résultats officiels des législatives à l'île Maurice. L'alliance de l'opposition menée par Navin Ranghoulam remporte les 60 sièges de députés qui étaient en jeu. On analyse ces résultats avec le journaliste mauricien Yvan Martial, ancien rédacteur en chef du quotidien L'Express, qui est notre invité. Au Sénégal, à 5 jours des législatives anticipées, des propos virulents du Premier ministre Ousmane Sonko qui font polémique. Léa Lisa Westerhoff, vous êtes en direct de Dakar. Sur Facebook, le chef du gouvernement, chef du PASTEF, appelle ses militants à se venger après des agressions menées, selon lui, contre ses supporters par des opposants en campagne.
Oui, le Premier ministre va même plus loin. Il demande à ce que le maire de Dakar, à la tête de la coalition Sam Sakadou, soit interdit de faire campagne. Car selon le Premier ministre candidat à ces législatives, cette coalition de l'opposition s'est rendue responsable dans plusieurs villes du pays d'agressions de militants de son parti, le PASTEF. Il appelle donc ses partisans à répondre et parle de droit, je cite, légitime à la riposte. Une déclaration qui fait évidemment bondir l'opposition qui dénonce cet appel public et dangereux à la violence. Mais dans les rangs de la société civile et du parti au pouvoir aussi, on appelle le Premier ministre à revenir à la raison. Guy Marius Sagna, par exemple, candidat aux législatives pour le PASTEF, parle dans un tweet d'agression extrêmement grave, mais il récuse la vengeance et appelle le ministère de l'Intérieur à faire respecter l'ordre public.
On voit bien en tout cas qu'à 5 jours de la tenue de ces législatives anticipées, la tension a grimpé d'un cran.
Oui, tout part de ce nouvel accrochage hier entre militants du PASTEF et militants de la coalition de Barthélemy Diaz à Saint-Louis, dans le nord du pays, en fin d'après-midi. Selon plusieurs témoins joints sur place, alors que la caravane de la coalition d'opposition Sam Sakadou défile à Saint-Louis, des sympathisants du PASTEF huent le convoi, mais l'ambiance est calme. Tout dérape quand des hommes de la sécurité du convoi de Barthélemy Diaz sortent des matraques, voire des couteaux. Sur des images de vidéosurveillance, on voit l'un d'entre eux donner un coup de couteau à un jeune homme au niveau du bras. La photo de sa plaie ensanglantée circule d'ailleurs depuis sur les réseaux sociaux. Bilan, selon une source hospitalière, 2 blessés par coup de couteau, 1 blessé par coup de poing, soigné à l'hôpital de Saint-Louis. Preuve d'un climat électrique et délétère. Et hier soir, la police a interpellé 40 membres de l'équipe chargée de la sécurité de la coalition de Barthélemy Diaz au niveau de Thiès sur la route vers Dakar. Une 40aine de personnes également interpellées à Saint-Louis selon le gouverneur de la ville.
Léa Lisa Westerhoff en direct de Dakar. J'ajoute que le ministre de l'Intérieur dans un communiqué publié hier rappelle qu'un arrêté interdit depuis le 17 octobre et jusqu'au 17 décembre le port d'armes de toute catégorie. Et il affirme que des instructions ont été données pour fouiller systématiquement les personnes et les cortèges considérés suspects. Au Burkina Faso, c'est la fin du couvre-feu en vigueur dans la région de l'Est. Hier, le gouverneur local a décidé de suspendre cette mesure instaurée pour des raisons sécuritaires. Sylvian Sané, cela faisait 5 ans que l'interdiction nocturne de circuler était en vigueur.
Oui, Nicolas, le couvre-feu a pris fin avant l'aube aujourd'hui, à 4h du matin précisément, d'après le communiqué du gouvernorat basé à Fadangourma, le chef-lieu de la région de l'Est. Dans son annonce, le gouverneur traduit sa sincère gratitude à l'ensemble de la population pour son civisme durant ces 5 années, et il souligne l'importance de la collaboration entre les civils et les forces burkinabées pour parvenir à la reconquête totale du territoire. Alors, depuis son instauration en 2019, ce couvre-feu dans l'Est a été renouvelé de nombreuses fois et ses horaires réajustés en fonction de l'insécurité du moment. La mesure pouvait s'accompagner, par exemple, de l'interdiction d'utiliser certains types de motos, le moyen de transport le plus prisé des groupes armés et djihadistes. Mais si le gouverneur annonce la fin du couvre-feu, il ne précise pas les raisons de cette décision. Officiellement, rien n'indique que le contexte sécuritaire s'est amélioré ou serait en voie d'amélioration. Joint par RFI, des contacts résidents dans la région de l'Est expliquent que l'instauration du couvre-feu n'a pas montré de réelle efficacité pendant ces 5 dernières années, notamment à cause de l'évolution en dents de scie de la situation sécuritaire.
Au Mali, pas de libération provisoire pour les 11 cadres politiques de la déclaration du 31 mars. Ces anciens ministres et dirigeants de partis engagés pour le retour à l'ordre constitutionnel avaient été arrêtés en juin dernier. Ils sont poursuivis notamment pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime. En septembre, le juge d'instruction avait ordonné leur libération dans l'attente de leur procès. Le procureur s'y était opposé. Eh bien, ce matin, à son tour, la cour d'appel a rejeté leur demande. Les 11 cadres politiques restent donc en prison. Le Mali, où le PDG de la compagnie minière australienne Resolute et deux de ses collaborateurs expatriés sont en garde à vue. Ils ont été brutalement arrêtés vendredi soir dans un hôtel de Bamako et sont détenus depuis à la brigade du pôle économique. Au centre de l'affaire, Serge Daniel, un litige foncier avec les autorités maliennes.
La compagnie australienne Resolute détient 80% des parts de la filiale propriétaire de la mine d'or de Siama située dans le sud-ouest du Mali. Les 20% restants sont entre les mains de l'État malien. Le président directeur général de la société, Terence Oloan, et son groupe sont accusés de faux présumés et d'atteinte aux biens publics. Une source au cœur de l'enquête du litige financier entre l'État malien et la société nous a confié, je cite, « C'est une affaire de gros sous, la société. En matière de fiscalité, doit beaucoup de l'argent à l'État malien. » Pratiques commerciales sont tout sauf orthodoxes. Fin de citation. D'après nos informations devant les enquêteurs, le patron de la société et ses collaborateurs en garde à vue se défendent. Mais pour le moment, ils ne souhaitent pas véritablement le clash avec Bamako. La mine d'or rapporte gros et les affaires sont les affaires. Selon un document officiel que nous avons pu consulter, la compagnie australienne serait prête à faire un effort pour mettre sur la table une partie de la somme colossale que réclament les autorités maliennes. Ces dernières restent pour le moment inflexibles et ne seraient pas étonnées de l'inculpation des hauts responsables de la société en cas de non-accord.
Le Mozambique, à la veille d'une nouvelle journée de manifestation, le candidat de l'opposition à la présidentielle, Venancio Mondlane, l'a annoncé hier. Depuis quasiment deux semaines, le pays est secoué par des manifestations pour dénoncer la fraude électorale. Leur répression a déjà fait une trentaine de morts et une centaine de blessés. Willy Diallo, demain, l'opposant veut se concentrer sur le secteur économique.
Nous allons empêcher toute activité pour qu'ils comprennent que les gens sont fatigués, a prévenu Venancio Mondlane dans une vidéo postée hier sur sa page Facebook. Le candidat à la présidentielle appelle de nouveau à la grève générale. Cette quatrième phase de protestation doit se concentrer sur les 11 capitales de province, les ports et les frontières. Venancio Mondlane demande la paralysie totale des corridors de Maputo et de Beira, deux axes majeurs pour l'import-export. Aujourd'hui encore, l'accès à certains réseaux sociaux reste bloqué, malgré le retour d'Internet dans le pays. Des restrictions qui risquent d'aggraver la situation, selon Célio Lazaro, militant et économiste. Les gens et les entreprises souffrent, les opérateurs eux-mêmes perdent beaucoup d'argent, cela augmente le mécontentement, a-t-il déclaré ce matin à la presse. Cette situation commence sérieusement à préoccuper le milieu des affaires. Hier, la Confédération des associations économiques a fait part de son inquiétude face à l'effondrement des réservations touristiques. Le Centre pour l'intégrité publique, une organisation de la société civile, estime que la contestation électorale a déjà coûté au Mozambique près de 360 millions d'euros.
Les résultats officiels des législatives à l'île Maurice confirment la déroute de la coalition gouvernementale, déroute sévère puisqu'elle n'élit aucun député. Le bloc de l'opposition, l'Alliance du changement conduite par Navin Ranegoulam, rafle tous les sièges. Ce n'est pas unique dans l'histoire politique mauricienne. C'était déjà arrivé en 1982 et 1995. À Port-Louis, le reportage d'Abdoulaye Arali.
Des scènes de joie ont animé toute l'île du matin jusqu'au soir. Des partisans de l'Alliance du changement ont fêté le retour de Navin Ranegoulam au pouvoir. Parmi eux, Nivedita Natu, qui a activement participé à la campagne.
Très, très contente, parce qu'on a travaillé très, très dur pour cette victoire. Je remercie le peuple mauricien énormément, parce qu'ils ont réagi et ils ont pris leur destin dans leurs mains.
Le temps de cette élection, le grand village du Nord, Triolet, est redevenu la capitale politique de Maurice. Mahesh, un habitant du village, attendait avec impatience le retour de Navin Ramgoulam.
Victoire, c'est très magnifique. On attendait depuis l'an 2019. Moi, j'espère qu'il va faire le bien, mieux.
Un cri de ralliement a marqué cette campagne. Le BLD, ce slogan créole appelant au départ du gouvernement, est devenu un puissant symbole de la contestation populaire. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
Et dans la deuxième partie d'Afrique Midi, l'analyse du journaliste mauricien Yvan Martial, qui est notre invité. L'embargo sur les diamants centrafricains va-t-il finalement être totalement levé? Le processus de Kimberley, l'organisme de régulation du commerce mondial du diamant, doit en discuter à partir d'aujourd'hui à Dubaï, où il réunit son assemblée plénière. L'embargo sur les diamants de Centrafrique a été mis en place lors de la crise politico-militaire de 2013. Car ils étaient des sources de financement pour les groupes armés. Les sanctions ont été allégées ces dernières années. Charlotte Cosset, les autorités de Bangui espèrent à présent leur levée totale.
Cette sanction n'a plus lieu d'être, déclarait le ministre des Mines dans une communication en septembre dernier à l'occasion d'une mission d'examen du processus de Kimberley. Celle-ci s'est rendue dans plusieurs villes minières du pays et notamment en zone rouge à Bria, à l'est. Les autorités estiment que le retour à l'ordre constitutionnel et, je cite, « le contrôle total du territoire » doivent permettre la levée totale des restrictions. En juillet dernier, un expert indépendant des Nations Unies notait cependant la persistance des attaques de groupes armés dans certaines zones, notamment minières et frontalières. En 2015, une levée partielle de l'embargo a permis la reprise des exportations de diamants bruts en provenance de 8 zones situées dans l'ouest du pays. En 2019, un allègement des procédures a également été accordé. L'année dernière, la Centrafrique a exporté près de 110 000 carats de diamants bruts pour une valeur estimée à 12 millions de dollars. Or, avant la crise, ces diamants représentaient près de 40% des recettes d'exportation du pays. La levée totale de l'embargo serait une aubaine pour les finances de l'État.
La coopération bilatérale au cœur de la 10e session de la Commission spéciale défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville voisin. La rencontre a commencé hier, elle se poursuit jusqu'à demain. Objectif, fluidifier les relations, Patient Ligaudy.
Malentendus, suspicions et litiges inutiles, voilà des termes qui résonnent souvent dans les couloirs officiels des deux Congos. Ces capitales voisines, les deux plus proches au monde, partagent aussi des défis sécuritaires. Le ministre de l'Intérieur du Congo-Brazzaville, Raymond Zéphirin Mboulou, a insisté sur l'importance du vivre ensemble et de la confiance mutuelle.
C'est le Congo. Il est notre terre partagée. Il est notre richesse. Il est notre vie. Il a fondé notre peuple et il a forgé notre culture. Travaillons à le protéger des suspicions et des litiges inutiles.
Les relations entre la RDC et la République du Congo ont récemment été marquées par des tensions liées à la politique de Brazzaville envers le Rwanda. En mai dernier, des informations ont fait état d'une cession des terres agricoles du Congo-Brazzaville au Rwanda, suscitant des interrogations à Kinshasa quant aux motivations de cette initiative. Raymond Zéphirin Mboulou, sans mentionner cet épisode, a tenu à clarifier la position de Brazzaville.
Le Congo n'a jamais servi et ne servira jamais de base arrière pour une initiative visant à déstabiliser un pays voisin, surtout pas le pays frère qu'est la République démocratique du Congo.
Ainsi, Kinshasa et Brazzaville entendent renforcer leur coopération en instaurant des échanges réguliers pour consolider leurs liens. Patient Ligaudy, Kinshasa, RFI.
Il est 13h43 à Kinshasa et à Brazzaville.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, le procès de l'assassinat de Martinez Zogo au Cameroun. Hier, les charges contre certains des accusés ont été alourdies. Le ministre français des Affaires étrangères annonce son premier déplacement en Afrique. Ce sera au siège de l'Union africaine. Et puis les sports du football féminin. Les 8 meilleurs clubs du continent sont au Maroc pour la Ligue des Championnes. Au Cameroun, un nouveau renvoi dans le procès de l'assassinat de Martinez Zogo, du nom de cet animateur vedette de la radio Amplitude FM, retrouvé mort en janvier 2023 à Yaoundé. Hier, l'audience a duré moins d'une heure. Le temps pour le tribunal militaire de rejeter toutes les exceptions soulevées par la défense au cours des dernières audiences, mais aussi de requalifier les infractions retenues contre certains des accusés. À Yaoundé, le compte-rendu de Richard Onanena.
s'appuyant sur ce qu'il qualifie comme de simples erreurs matérielles suite à des omissions observées dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal militaire a requalifié unilatéralement certaines inculpations retenues contre les accusés. Léopold Maxime Ekoeko, ex-directeur de la DGRE, la direction de la recherche extérieure, est désormais, tout comme Jean-Pierre Amogo-Bellinga, le patron du groupe de presse privée L'Anecdote, accusé d'infraction de complicité de torture, une requalification des faits qui passe mal pour mettre un Nanjana, avocat de Maxime Ekoeko.
Pour le faire, il faut donc avoir auditionné notre client à nouveau dans des débats, donner la parole au ministère public qui peut solliciter la requalification. À ce moment, le juge de fond procède donc à la requalification et renotifie à nouveau cette qualification à notre client. C'est une décision qui nous tombe sur la tête.
En dehors de la requalification des faits, le tribunal a rejeté toutes les exceptions soulevées par la défense, notamment, pointe-t-il, des vices de procédure. Les avocats des accusés ont annoncé qu'ils vont interjecter appel de ces décisions et ils regrettent cette procédure. Maître Mbounich, avocat de Justin Danwe, patron du commando suspecté d'avoir enlevé et torturé Martinez Zogo.
C'est pas nous, parfois, qui faisons tourner en rond. Parce que moi, depuis que je suis avocat, c'est la première fois avant qu'on ouvre les débats qu'on rectifie une ordonnance de renvoi. Pour moi, c'est spécial.
Le procès a été renvoyé au 2 décembre pour l'ouverture des débats de fond. Richard Odanena, Yaoundé, RFI.
Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, annonce son premier déplacement en Afrique subsaharienne. Invité ce matin de RFI et de France 24, il indique qu'il se rendra à la fin du mois en Éthiopie pour rencontrer les représentants de l'Union africaine.
D'ici la fin du mois, je me rendrai à Addis Abeba pour un échange entre la France et l'Union africaine qui sera l'occasion d'abord de réaffirmer l'ambition qui est celle de la France de réformer les institutions multilatérales et internationales, et je pense en particulier au Conseil de sécurité de l'ONU, pour que l'Afrique puisse y être mieux représentée, oui, de manière à ce que ces institutions soient plus légitimes et que lorsqu'elles prennent des décisions, eh bien ces décisions puissent être entendues et appliquées.
L'Afrique mieux représentée, ça veut dire un poste au Conseil de sécurité, un poste permanent au Conseil de sécurité de l'ONU ?
Ce que nous défendons, c'est l'idée d'avoir deux sièges permanents, oui, pour les pays africains.
Jean-Noël Barrot avec Arnaud Pontus et Caroline de Camaret. Le ministre français des Affaires étrangères annonce aussi que la France sera présente pour les commémorations des 80 ans du massacre de Tiaroy au Sénégal, sans dire toutefois à quel niveau Paris sera représenté. Les sports du football féminin, les 8 meilleurs clubs du continent sont au Maroc en ce moment pour la Ligue des Championnes. Deuxième journée dans le groupe A aujourd'hui. Les joueuses du tout-puissant Mazembe qui ont remporté leur premier match affrontent les Phares de Rabat. Quant aux Sénégalaises des Aigles de la Médina, elles font face aux Sud-Africaines du WC du Cap. Les Dakaroises, qui ont perdu leur premier match, n'ont plus le droit à l'erreur si elles veulent garder leur chance d'accéder aux demi-finales. L'entraîneur des Aigles de la Médina, Omar Cher Tidiane Diouf, en a bien conscience.
Deuxième match contre les Sud-Africaines, qui ont eu aussi une défaite. Et on va jouer un match très, très difficile, mais on va montrer un autre visage parce qu'il faut tout faire pour gagner ce match. En espérant se qualifier, en gardant nos chances. Si on perd ce match ou bien si on fait match nul, là, nos chances vont diminuer. Mais pour l'instant, focus sur le match et on va tout faire pour essayer de gagner ce match pour avoir les 3 points. Les filles sont bien dans leur tête. La défaite est restée derrière nous. On a oublié la défaite du premier match.
Des propos recueillis par Babacar Fall. La Ligue des Champions au Maroc, c'est jusqu'au 23 novembre. Il est 13h49 à Paris. Anne Cantner, les grands titres de ce mardi 12 novembre.
La COP29 et cet appel du secrétaire général de l'ONU. Le financement de la transition des pays en développement n'est pas un acte de charité, mais un investissement, dit Antonio Guterres. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement doivent prendre la parole à la COP aujourd'hui et demain. Mais ceux des principaux pays pollueurs et de plusieurs grandes puissances sont absents, notamment Emmanuel Macron, qui se rendra en revanche au sommet du G20 le week-end prochain au Brésil. Il vient de le faire savoir. Après une étape en Argentine pour parler climat, justement, avec Javier Milei. Le président français qui dénonce également une escalade grave dans le conflit en Ukraine avec la mobilisation de soldats nord-coréens. Ils sont en Russie pour le moment, ils sont des milliers. La Russie, où une pédiatre vient d'être condamnée à 5 ans de prison pour avoir critiqué la guerre en Ukraine pendant une consultation. Et toujours à propos de ce conflit, le chef de l'OTAN appelle à faire plus que simplement permettre à l'Ukraine de se battre. Voilà, déclaration de Marc Rutte qui rencontre le président français. À l'île Maurice, c'est donc une victoire totale aux législatives pour la coalition d'opposition Alliance du Changement menée par l'ancien Premier ministre Navin Rangoulam. Selon la commission électorale, elle est majoritaire dans toutes les circonscriptions et remporte donc tous les sièges de députés. Le journaliste mauricien Yvan Martial, ancien rédacteur en chef du quotidien L'Express, est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Yvan Martial.
Bonjour les auditeurs.
Comment analysez-vous la victoire de Navin Rangoulam et la défaite majeure de Pravin Jugnauth?
Bon, d'abord, je voudrais vous parler de notre système électoral plus ou moins hérité du colonialisme, encore que nous avons eu amplement l'occasion de le modifier si tel était notre désir. C'est un système que nous appelons le « first past the post », c'est-à-dire les trois premiers par circonscription, parce que nous avons 20 circonscriptions à 3 députés. Les trois premiers sont élus et les autres ne le sont pas, même si l'écart est très très faible. Et dans un petit pays comme Maurice, où tout le monde se connaît ou presque, c'est très facile de passer d'un extrême à l'autre, surtout après un ou deux mandats où on a quand même accumulé à la fois des réalisations, mais aussi des scandales et des choses qui déplaisent. Donc, depuis notre indépendance, nous sommes arrivés à la troisième ou quatrième fois qu'il y a eu des passations de pouvoir entre deux blocs politiques qui, d'ailleurs, à d'autres moments, ont été des alliés. Donc, c'est une sorte de partie de chaise musicale dans laquelle les Mauriciens se retrouvent facilement.
L'actuel Premier ministre Pravin Jugnauth occupait ce poste depuis 2017 et il avait succédé à son père. Son alliance est donc très largement battue. Selon vous, pour quelles raisons ?
Écoutez, c'est peut-être l'usure du pouvoir où, certes, pendant ces 10 ans que son parti était au pouvoir, il a quand même réalisé plein de choses en faveur de la population. Mais, vous savez, autour du pouvoir, il y a des choses qui se passent et qui déplaisent et qui fait qu'il y a une sorte d'accumulation de frustration. Et finalement, l'électorat souhaite à un certain moment un changement de régime en espérant que ça remettra les choses un peu au clair.
Il y a eu notamment un scandale pendant la campagne, celui des écoutes téléphoniques de personnalités qui ont fuité. La réponse des autorités a été de couper les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, ça a été déterminant dans le vote des Mauriciens ?
Écoutez, c'est la première fois que ça nous arrive dans les temps modernes, parce qu'aujourd'hui, les Mauriciens sont très habitués à vivre avec ces réseaux sociaux, ils ne peuvent pas s'en passer, et ça a été un coup brutal qui a vraiment causé un choc, et d'autant plus que la censure devait aller jusqu'à après les élections, et donc ça aurait été une dizaine de jours sans réseaux sociaux. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a dû avoir des réactions, surtout du milieu des affaires, parce que toute l'économie était paralysée, et qui fait que le gouvernement a reculé, et ça fait créer un mauvais effet.
La campagne de Pravin Jugnauth aurait pourtant bien pu commencer. Il y avait eu quelques semaines avant les élections l'annonce de l'accord avec le Royaume-Uni sur la souveraineté de l'archipel des Chagos. C'est une grande cause nationale. Pourquoi finalement ça n'aura pas suffi pour les électeurs mauriciens ?
Alors le gouvernement sortant a voulu appâter l'électorat en faisant miroiter que cet accord allait nous rapporter des milliards de dollars chaque année. Mais comme dit le proverbe mauricien, ne vendons pas l'œuf qui est encore dans le ventre de la poule. En français, vous dites ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors, cet accord, c'est un accord en deux premiers ministres, celui de Londres et de Port-Louis. Il faut que cet accord soit ratifié par le Parlement britannique, ce qui est loin d'être acquis. Il faut que les États-Unis ratifient cet accord avec Trump, ça devient encore plus difficile. Donc,
La portée de cet accord annoncé est restée en fait limitée.
Oui, pas de taille à contrer toutes les fuites d'informations qui ont fait des ravages.
La participation à ces législatives tournerait autour de 80%. On a un Premier ministre qui a reconnu sa défaite immédiatement. Ça veut tout de même dire que la démocratie mauricienne reste en grande forme, quoi qu'on en dise.
Oui, sauf que ces élections absolument libres et indépendantes nous donnent, une fois de plus, un Parlement sans opposition, avec tout le danger que cela représente. Ça fait la cinquième fois depuis l'indépendance que cette situation se présente à Maurice. Fort heureusement, à ce jour, aucun parti vainqueur n'a abusé de ce pouvoir, ce chèque en blanc que l'électorat lui confie, qui lui permet de modifier la constitution de Maurice comme bon lui semble. Et il y a un dicton à Maurice qui nous vient d'ailleurs d'un ancien premier ministre qui disait toujours « il y a un bon Dieu pour l'île Maurice ». Eh bien, je demande à bon Dieu là de ne pas s'endormir et de continuer à veiller sur le peuple mauricien.
Merci Yvan Martial, merci. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr. Et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Le rappeur ivoirien Suspect 95 est de retour. Un an après un premier album, Société Suspecte, encensé par la critique et le public, il a divulgué au début du mois un nouveau projet de 10 titres, L'Alchimiste. Notre correspondante à Abidjan, Marine Janin, a rencontré Suspect 95 à son studio.
Ah la vida. Ah la vida artiste, la vida artiste, ah la vida artiste, c'est quelque chose, c'est quelque chose.
La vie d'artiste, Suspect 95 la connaît bien désormais. Après 9 ans de carrière, il est reconnu comme l'une des figures emblématiques du rap ivoire, mais ses ambitions vont encore plus loin.
Ah non, on a tout à prouver, hein. La musique, le showbiz, l'industrie musicale, c'est se renouveler à chaque fois, c'est reprouver à chaque fois. Il y a des salles que j'ai envie de faire, il y a des événements que j'ai envie de faire, il y a des stats que j'ai envie d'atteindre, donc il y a encore tout à prouver.
L'Alchimiste est un projet plus mature, avec des parties chantées, dont certaines en langue locale, et des textes plus profonds et plus sensibles, qui témoignent de l'évolution personnelle du rappeur.
Au début, j'étais beaucoup plus égotrip, j'étais beaucoup plus street, quoi. Mais au fur et à mesure que ma carrière évoluait, j'ai commencé à avoir de nouvelles réalités, j'ai commencé à avoir une famille, des enfants.
Vous cherchez la grossesse, ok, je vais vous montrer ce qui vous attend.
Et donc j'ai voulu faire ce petit mélange-là pour créer cette alchimie-là, en tout cas entre tout ce que je suis.
Cette transformation, le motif récurrent du projet, lui a été inspiré par le roman éponyme.
Ça vient aussi de l'inspiration du livre de Paulo Coelho, qui est L'Alchimiste, qui est, moi pour moi, un livre qui m'a marqué personnellement.
Suspect 95 se produira sur scène au Parc des Expositions d'Abidjan avant la fin de l'année et en France en 2025. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Ce nouveau projet de Suspect 95 n'est que la dernière illustration en date du dynamisme exceptionnel du rap ivoire. Comme on appelle ce rap ivoirien matiné de coupé décalé et de nouchi, l'argot des jeunes de la rue. Les raisons de ce succès, Ozone Afrique Bamba, animateur de télévision et de radio spécialisé dans la culture hip-hop, nous les explique.
Le rap ivoire aujourd'hui supporte très très bien, il est au sommet. Il a toujours été dynamique dans les quartiers, dans les villes. S'il est là aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs énergies qui ont convergé vers un objectif bien précis, qui est donc de voir le rap ivoirien sur des grandes scènes et faire de grosses collaborations partout dans le monde. Et Suspect, il fait partie de ceux-là qui nous représentent dignement. Suspect, il a joué un rôle très important parce qu'il est arrivé à une période où on avait besoin de rappeurs à texte, où le rap était sous l'influence du coupé décalé et d'autres genres de musique urbaine. Et lui a pris le risque de ramener des textes et parfois de conscientiser. Il a réussi ce coup, donc aujourd'hui, il se positionne comme l'un des leaders de ce courant du rap.
Et c'est avec Suspect 95 que se referme cette demi-heure africaine réalisée, préparée avec Laurent Chaffard, Michael Goncalves et Cécile Périllard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain Nicolas Sûr. Vous restez sur RFI, on se retrouve dans une minute pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous pouvez écouter aussi une demi-heure d'informations en full day.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine.
demain.
Prévention et prise en charge de la pneumonie pour protéger les enfants.
Jeudi.
Journée mondiale du diabète, mieux lutter contre cette épidémie mondiale.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Bonjour, c'est Tiken Diafakoli. Ce mercredi 13, je serai avec vous toute la journée sur RFI.
Le 13 novembre, Tiken Diafakoli est l'invité spécial de RFI. Retrouvez-le dans les tranches d'information et les émissions de RFI en français, en malinké et en foufouldé.
Et le soir, je vous invite, vous les auditeurs, à mon concert.
À 19h40 TU, ne manquez pas le concert du reggaeman panafricain en direct de la salle Playel à Paris.
Rastafari, African Revolution.